France Inter.
Aujourd'hui, Omnibus, ou comment la transition écologique européenne pourrait bien dérailler, raconté par...
Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En Europe, jusqu'à présent, aucun pesticide n'était autorisé à vie. Chaque substance devait tôt ou tard repasser devant la science, être réévaluée pour être confirmée ou retirée. Et puis en décembre 2025, cette règle a commencé à vaciller. À Strasbourg, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet législatif au nom anodin, presque inoffensif, Omnibus. Derrière ce mot technique se cache une proposition lourde de conséquences, autoriser certains pesticides sans limite de durée et donc sans aucun rendez-vous obligatoire avec les connaissances scientifiques. Officiellement, il s'agit de simplifier pour désengorger les agences sanitaires, d'aller plus vite, de coûter moins cher. Mais dans les faits, ce qui est remis en cause, c'est un pilier de la protection sanitaire et environnementale européenne. Le principe selon lequel une substance chimique ne peut rester sur le marché que tant que la science le permet. Car c'est précisément grâce à ces réexamens périodiques que des pesticides dangereux ont été interdits ces dernières années. Avec Omnibus, ce garde-fou serait donc fragilisé. Et ce qui se joue avec les pesticides n'est pas un cas isolé. Depuis un an, Omnibus est devenu un mode de gouvernement européen, un mot valise pour rouvrir, texte après texte, des lois pourtant adoptées récemment. Finances durables, devoirs de vigilance des entreprises, climat, santé, alimentation, à chaque fois le même raisonnement, simplifié pour accélérer et alléger. Ce qui est présenté comme une opération technique est en réalité un choix politique, celui de considérer que les règles environnementales, sociales ou sanitaires sont devenues un problème à résoudre plutôt qu'une protection à assurer. Et c'est cette mécanique Omnibus et ce qu'elle révèle de l'Europe d'aujourd'hui que nous allons aujourd'hui vous raconter.
Vous l'avez probablement vu passer, jeudi dernier, le Parlement européen a voté un texte fortement contesté, notamment par les ONG environnementales. Les conservateurs du PPE et l'extrême droite ont voté en faveur d'une directive Omnibus qui réduit fortement les responsabilités des entreprises en matière sociale, de respect des droits humains et de l'environnement. Et ce n'est pas un coup isolé, puisque d'autres textes Omnibus seront soumis au vote des parlementaires européens dans les prochains mois.
Bonjour Lucie Pinson.
Bonjour.
À l'instant, nous entendions un extrait d'un reportage du soir, c'était le 20 novembre dernier. On va donc consacrer cette Terre au carré à Omnibus à Bruxelles. Je vais faire appel à votre talent de pédagogue et de vulgarisatrice pour nous expliquer de quoi il s'agit exactement, que ce que recouvre ce terme dans le droit européen aujourd'hui.
Alors c'est la réouverture des textes qui vise à protéger notre santé, à protéger nos droits, à faire en sorte que nos multinationales soient responsables et tenues responsables sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, pas seulement ici mais aussi au niveau international. Et donc c'est des textes qui visent à nous protéger mais qui sont réouverts en vue, comme vous l'avez dit, de simplifier au nom de la compétitivité européenne. On met en péril notre capacité en vérité à se transformer pour faire face aux défis qui nous attendent ou auxquels on fait face dès maintenant, à savoir la transition écologique, mais aussi tous les enjeux sociaux et sanitaires qui y sont liés.
Ouais, pourquoi justement alors, la Commission européenne présente Omnibus comme un texte de simplification et pour simplifier quoi exactement alors?
Alors, on parle d'alléger la charge réglementaire qui pèserait sur nos multinationales et les empêcherait d'opérer. En vérité, c'est un tour de passe-passe, hein, puisque derrière l'Omnibus 1, qui a détricoté les réglementations parties prenantes du Green Deal et du paquet finance durable et dans lequel on va trouver deux réglementations phares, et on y reviendra tout à l'heure, eh bien, il y avait déjà l'idée d'alléger la charge réglementaire pour soutenir la compétitivité de nos entreprises. Et en vérité, cette déréglementation qui va bien au-delà d'une simplification, hein, il y a un petit jeu rhétorique qui est fait à ce niveau-là, eh bien, elle a été faite sans étude d'impact. Donc, sans démonstration que, en effet, ces mesures pèseraient sur nos entreprises. À l'inverse, pourtant, toutes les études disponibles montrent que nous avons besoin de ces réglementations pour armer nos entreprises, au-delà de nos multinationales, mais l'ensemble du tissu économique, pour faire face aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux.
Alors justement, à quel moment, parce que c'est assez récent, cette stratégie Omnibus est-elle apparue dans l'agenda européen et dans quel contexte aussi politique et économique pour comprendre comment elle s'inscrit aujourd'hui ?
Alors le premier Omnibus, il vient vraiment, il fait suite aux élections européennes donc de juin 2024. Hein. Ces élections vont vraiment marquer un moment charnière dans l'agenda politique en marquant l'arrivée ou la montée dans les instances réglementaires européennes des partis de l'extrême droite. Des partis de l'extrême droite qui vont à l'époque être les seuls à porter vraiment un agenda de déréglementation, mais qui vont très vite trouver des alliés au sein des partis de la droite européenne et dans une certaine mesure au sein du bloc macroniste. Donc ces élections vont vraiment marquer le lancement du premier omnibus qui vise encore une fois à mettre à bas ces réglementations climatiques. Elles vont être très vite suivies par la publication d'un rapport, le rapport Draghi, qui réaffirme l'objectif de compétitivité et donc de détricotage de la déréglementation. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre déjà que alors qu'on a tendance souvent à tout mettre sur Trump, à dire que l'Europe ne fait que réagir aux pressions extérieures et à Donald Trump, et ben on voit là que ça a démarré avant les élections états-uniennes. Alors ça ne veut pas dire que les entreprises américaines n'ont pas été extérieures à ce processus, on y reviendra, mais en tout cas ça montre bien qu'il y a une autonomie et un choix politique assumé de la part de nos décideurs au niveau national ou au niveau européen.
D'autant que ça s'inscrit quand même effectivement dans un discours croissant sur la perte de compétitivité vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine.
Alors ça marque en effet cette volonté-là de se démarquer, et alors encore une fois à tort, hein, les arguments présentés ne sont pas convaincants, mais c'est vrai que ça souligne une séquence politique qui s'inscrit sur le plus long terme. Globalement, on a eu dans la décennie 2010-2020 une année croissante d'action en faveur du climat et de la protection des droits humains, et qui visait justement à s'assurer à la fois qu'on équipe nos entreprises pour se transformer et être compétitive dans un contexte de transformation écologique, et puis qu'on assure également que nos multinationales soient tenues responsables et donc évitent leurs impacts sociaux, sanitaires et environnementaux sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Ça, c'est la séquence jusqu'en 2020. Et à partir de 2020, on voit une autre petite musique se développer, également par les mêmes personnes qui ont précédemment soutenu les réglementations en faveur du climat ou des droits humains. Et une séquence qui, du coup, va mettre de plus en plus en avant l'idée selon laquelle ces réglementations pèseraient sur nos entreprises. Et l'omnibus va être précédé, en effet, et facilité très certainement par une prise de position directement qui vient de la France, donc d'Emmanuel Macron, qui, en juin 2023, va appeler à une pause réglementaire.
C'est ça, absolument.
À l'époque, par contre, on appelait à une pause. On n'était pas dans le détricotage, on disait juste on va maintenir les réglementations en place, on ne va pas en maintenir d'autres parce que bon, il faut déjà les mettre en place, voir ce que ça donne et laisser un peu le temps à nos entreprises de souffler. Et en vérité, très vite, cette idée de mise en pause va devenir un véritable détricotage de ce qui était à l'ordre du jour.
On va revenir donc un tout petit peu en arrière dans finalement cette histoire que vous venez de nous décrire, la Lucie Pinson, avec l'année 2019, qui a été un peu l'âge d'or de l'écologie à ce moment-là. Là, Ursula von der Leyen est nommée présidente de la Commission européenne, et voilà ce qu'elle déclarait à ce moment-là concernant l'écologie.
Je veux que l'Europe devienne le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici 2050. Dès mes 100 premiers jours en fonction, je présenterai un pacte vert pour l'Europe. Je proposerai également la toute première loi européenne sur le climat afin d'inscrire dans la loi l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Ursula von der Leyen, traduite par Jérôme Boulet, Lucie Pinson. Donc là, 2019, hein, il y a quand même il y a de l'optimisme dans l'écologie, puisque même les hautes instances européennes s'en emparent. Et il y a ce Green Deal quand même qui vient marquer les esprits.
Alors en effet, à ce moment-là, on a vraiment tout l'écosystème politique et économique hein, qui est engagé en faveur de cette action climatique et de l'atteinte de la fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050. On a ce volontarisme politique qui est marqué par le discours de Van der Leyen, mais il faut aussi noter qu'à l'époque et dans les dispositions qui sont discutées, on en a une qui est particulièrement intéressante à discuter aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle, alors, désolé pour les acronymes, la CSRD, qui compte concrètement, demande aux entreprises de publier des informations quant à leur prise en compte des risques auxquels ils font face, mais aussi de leurs impacts.
C'est la directive sur le reporting de durabilité des entreprises.
Voilà, tout à fait. Donc, on demande du reporting et de la transparence sur les impacts et les activités de chaque entreprise. Et cette directive, elle n'est pas issue de l'imagination des décideurs politiques. Elle est également demandée par le secteur économique et notamment par le secteur financier. Mmh. Le secteur financier qui, on sait, a beau jeu de se cacher derrière l'absence de données pour justifier son inaction, alors que des fois, franchement, la donnée, elle est disponible, notamment sur les énergies fossiles, mmh. où là, on a déjà tout en main pour agir. Ceci étant dit, leur discours est un petit peu fondé. C'est vrai que pour aller plus loin et transformer l'ensemble des portefeuilles financiers et donc transformer l'ensemble de l'économie, on a besoin d'une donnée qui soit plus granulaire, de meilleure qualité, et de manière à équiper toutes les entreprises. Et donc cette directive vise justement à équiper l'ensemble des acteurs financiers pour à la fois transformer leur portefeuille et puis aussi réallouer les financements aux entreprises qui font le plus d'efforts pour identifier les entreprises qui feront le monde de demain, qui vont dans le bon sens.
Donc il y avait un cercle vertueux à ce moment-là.
Il y avait un cercle vertueux. Eh bien, il va falloir avoir ces données. Et donc, on construit cette architecture. Et badaboum, 2 ans plus tard, ces mêmes entreprises vont commencer à dire que c'est trop lourd, et ces politiques vont donner un écho à cette remise en question de cette architecture, alors que pendant des années, vraiment, ils ont justifié le fait qu'ils ne pouvaient pas agir plus vite que la musique en matière de protection du climat, parce qu'il leur manquait ces fameuses données. Quand on veut leur donner ces données, finalement, c'est peut-être un peu trop lourd.
Donc toutes ces voix se sont multipliées hein, aussi, se sont fait de plus en plus entendre et aujourd'hui on voit les effets justement sur ce paquet donc législatif omnibus. Il faut dire aussi, juste pour rester un instant dans cette année 2019, qu'elle est aussi dans le sillage de la COP21, de l'accord de Paris. Donc ça c'est tout un mouvement aussi qui était entraîné à l'échelle planétaire hein, et qui devait donc fournir des efforts et l'Europe faisait quand même figure de bonne candidate à ce moment-là. Hein.
Alors en effet, ces réglementations sont vraiment s'inscrivent dans la veine de l'accord de Paris, de la dynamique qui a été générée après 2015 avec des mobilisations climat extrêmement importantes et une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société civile et des partis politiques qui trouvaient un intérêt politique à agir sur ces questions-là. Donc c'est vrai que ça nous éclaire un peu sur l'avenir aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de refaire le match, hein, il faut aussi regarder ce vers quoi on va aller. Et ça nous enseigne quand même, je pense, 2 choses. D'une part que les avancées sociales et climatiques ne doivent pas être considérés comme des acquis. Il faut toujours rester sur nos gardes, nous, société civile, et donc il va toujours falloir faire preuve de vigilance nous-mêmes.
C'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Hein.
Tout à fait. Et mettre la pression sur les politiques pour que ces sujets-là, la protection des droits humains, la protection de l'environnement, ne deviennent pas des variables d'ajustement, mais soient vraiment au cœur des politiques économiques qui sont menées. Le deuxième point, ce que cela montre, c'est que ça éclaire quand même la séquence politique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, à savoir on fait face à un gros déni démocratique. On fait face à un déni démocratique à 2 niveaux. On a déjà un paquet réglementaire, donc Omnibus, le premier paquet Omnibus, Omnibus 1, qui a été mené au plus haut niveau, je parle au niveau des instances nationales, ça a été mené au plus haut niveau, au niveau du Premier ministre, au niveau de l'Élysée, sans consultation de la société civile,
C'est ce que vous révéliez en octobre dernier avec Riekkelijn Finan, c'est que le vice-président de l'exécutif européen n'avait rencontré que des entreprises pour préparer justement la loi Omnibus. Donc pas d'ONG, c'est ça? Pas de syndicats? Pas d'université?
Aucunement. Aucunement. Alors par contre, il y avait la part belle aux multinationales qui n'ont pas manqué d'être reçues au niveau national et au niveau européen hein, par les différentes instances politiques à plusieurs reprises. Et ça se retrouve notamment dans la copie finale avec la première proposition de la Commission hein, qui reprend à 70% les propositions du MEDEF, à plus de 60% les propositions de la Fédération bancaire française.
Il y a même une ONG néerlandaise, Somo, qui a révélé, qui parlait en décembre dernier d'une coalition secrète des grandes entreprises. Coalition secrète.
Oui, voilà. Alors ça arrive après que l'omnibus soit lancé. Ça arrive en 2025, quand bien même les multinationales étaient sur le pont hein, pour avancer cet agenda de déréglementation avant les élections européennes. Cependant, leur lobbying en faveur de la déréglementation s'est accentué une fois l'omnibus lancé. Et notamment, cette déréglementation, elle va venir donc des grandes multinationales, sans surprise des multinationales des énergies fossiles.
Total Energy, par exemple.
Donc, on va retrouver dans, au niveau international ce petit groupe de la table ronde pour la compétitivité de 11 entreprises, quasiment uniquement des entreprises américaines, mais également on va y trouver Total Energy, et qui vont en effet avoir un agenda très organisé pour peser sur le Conseil, la Commission et le Parlement européen, donc pour avancer leur bille. Au niveau européen, et après je m'arrêterai là, on a à peu près la même chose avec des multinationales qui vont également peser sur les réglementations, et on a eu la révélation donc d'une lettre envoyée par des entreprises allemandes et françaises à l'initiative de Total Energy et Siemens aux autorités des deux pays pour leur demander
la suppression.
Alors là, on n'est même plus dans le détricotage.
C'est pas la pause ou le détricotage.
Tout à fait. On est dans la suppression de la loi sur le devoir de vigilance.
Donc des normes écologiques et sociales. On va voir dans un instant, Lucie Pinson, ce que ces textes vont changer concrètement sur le terrain pour les droits humains, l'environnement, le climat. Derrière toujours cet argument de la simplification. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans un instant.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
On ne veut pas augmenter la compétitivité en polluant. On veut augmenter la compétitivité en rendant les choses plus simples. C'était important de ne pas affaiblir nos objectifs environnementaux et de respecter les demandes de ne pas déréguler. Ce paquet législatif, il ne touche pas à des législations phares comme les directives Habitat, Oiseaux ou la loi sur la restauration de la nature.
La voix de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour, c'est son titre, une transition propre, juste et compétitive. C'est une femme politique espagnole, elle est membre du Parti socialiste, avec un discours un peu ambigu quand même dans les termes, Lucie Pinson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'elle ne parle pas de simplification. Hein. Elle dit, bon, effectivement, on voudrait faire des choses plus simples, mais pas au détriment de l'environnement. Mais elle reprend quand même ce terme de simplification. Au sein donc du paquet législatif européen Omnibus, qui risque de bouleverser l'avenir et notre continent. Comment vous interprétez-vous ces propos-là que vous venez d'entendre ?
D'abord, c'est intéressant sur les termes, parce que c'est vrai que derrière le terme simplification, on peut tout mettre. Même nous, ONG, on ne serait pas en défaveur d'un certain niveau de simplification. Cependant, notre simplification n'est pas celle portée par les grandes multinationales et les décideurs politiques qui, derrière la simplification, portent un agenda de déréglementation.
Donc, là, c'est les intérêts ne sont pas les mêmes, évidemment.
Les intérêts, clairement, sont pas les mêmes. Deuxième point, c'est quand même de noter que l'Espagne, en effet, fait quand même figure de bon élève au niveau européen en termes de positionnement politique. On a une Europe qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, les choix européens sont les choix des États membres hein, et donc on peut jouer sur l'avenir politique et les réglementations au niveau européen et en interpellant chacun des États membres. Et c'est vrai que là, on a une Espagne qui est plus engagé dans la protection des droits humains et des réglementations en faveur de la transformation écologique.
Teresa Ribeira, là, hein, donc, qui appartient à la Commission européenne, hein, elle affirmait en décembre, je la cite, qu'il vaut mieux être, il faut être beaucoup plus sérieux sur la manière dont la Commission gère la simplification en appelant à éviter une approche à la Trump et en regrettant le spectacle politique terrible qu'ont pu offrir les débats à Strasbourg. Ça veut dire que sur cette question omnibus au sein même de la Commission, il y a des tensions.
Alors, il y a des tensions, notamment parce que la Commission a bafoué ses propres règles, en fait, à travers ce mécanisme omnibus. Au-delà de la qualité des débats qui est pointée ici, nous, on note deux choses. On note, encore une fois, l'absence de consultation, alors que c'est une obligation de la Commission de consulter largement les différentes parties prenantes avant de se lancer dans un tel agenda. Et la deuxième obligation, logiquement, c'est de faire des études d'impact. Et là, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et donc, on avance des grands arguments, des grandes positions politiques qui ne sont appuyées sur rien, sont totalement sans fondement. Et en effet, là, on peut voir un certain rapprochement à la manière dont la politique est menée outre-Atlantique.
Donc, pas d'étude d'impact. Cependant, on peut évoquer ensemble, Lucie Pinson, les impacts possibles qui se profilent avec ce paquet législatif sur les droits humains, sur l'environnement, sur le climat. Qu'est-ce que ça peut donner concrètement ? Alors, citez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne comment Omnibus pourrait influencer ces différents domaines.
Alors, on a deux choses. D'abord, on va revenir sur ce dont on parlait juste tout à l'heure, sur la CSRD et cette directive qui vise à donner des informations à l'ensemble des acteurs économiques et notamment des acteurs financiers pour leur permettre de décarboner leur portefeuille et de réorienter surtout leurs services financiers, leurs financements, leurs investissements, leur couverture d'assurance vers les entreprises qui sont les bons élèves de demain et qui font les efforts de transformation en matière écologique. Malheureusement, avec Omnibus 1, on n'aura pas ces informations. On passe d'une obligation originellement de reporting qui couvrait toutes les entreprises de plus de 250 salariés.
Qu'est-ce qu'on entend par reporting d'ailleurs ?
Reporting, c'est juste le fait de publier des informations sur les activités menées par les entreprises, donc des informations sur à la fois la manière dont ils prennent en compte les risques auxquels ils sont exposés et des informations aussi sur leurs impacts.
Et leurs démarches.
Pour éventuellement y remédier.
Donc ça, on n'aura plus forcément accès du tout à cela, à ces informations.
Alors, il y a deux choses. On a une réduction du nombre d'informations qui va être demandée. Au-delà de la quantité d'informations, on a un problème au niveau de la qualité, parce qu'il y a des informations qui étaient autrefois intégrées à cette obligation, qui ont été retirées et qui sont pourtant cruciales pour pour prendre en compte les risques et les impacts, y remédier et rediriger les financements. Le deuxième point, c'est que toutes les entreprises ne sont plus soumises à cette obligation. 80% des entreprises qui devaient faire ce reporting, aujourd'hui, en sont exemptes. Et donc, ça va rendre la tâche beaucoup plus compliquée pour les investisseurs, parce qu'il y en a quand même des investisseurs qui sont encore plein de bonne volonté pour transformer l'économie. Et bien même eux, en vérité, ils vont être bien en peine de le faire parce qu'ils ne vont pas avoir l'information nécessaire. Et donc, ça va impacter les entreprises européennes, les petites, moyennes ou même plus grandes entreprises.
En quoi ça va les impacter alors ?
Qui jouent vraiment, pas toutes, mais celles qui jouent vraiment le jeu de la transformation, qui font tous les efforts, qui ont déjà fait plein de transformations à leur niveau.
Elles ne seront pas reconnues comme telles.
Elles seront moins bien reconnues, voire pas reconnues comme telles. Et donc, leur accès aux capitaux et aux ressources pour se développer va être fragilisé. Ça, c'est le premier impact.
Ouais.
Le deuxième impact, il est sur notre capacité à protéger notre santé, les droits. Et les droits, pas seulement des populations en Europe, mais également au niveau international. Puisque là, on parle d'un autre texte, la directive sur le devoir de vigilance au niveau européen. Et cette directive, qui existe aussi d'ailleurs au niveau français sous une autre forme, eh bien, elle a été également largement fragilisée. Cette directive, il faut comprendre déjà d'où elle venait. Elle venait de l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Le Rana Plaza, c'est un bâtiment qui abrite des ateliers de conception textile pour le compte des grandes multinationales.
Au Bangladesh.
À Dakar. Voilà. Et cet effondrement va mettre le doigt sur les conditions d'exploitation des travailleurs dans les pays du Sud, par les multinationales, notamment européennes.
Il y a 1127 personnes qui sont décédées.
Tout à fait, c'est un drame colossal. Et puis, ça va mettre le doigt sur le nœud du problème, qui est la dilution de la responsabilité à travers la construction d'une sous-traitance en chaîne. Et donc, cette loi sur le devoir de vigilance visait à forcer les multinationales à regarder, identifier, pour les prévenir, leurs impacts sur les populations, sur l'environnement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, jusqu'au dernier sous-traitant.
Donc Omnibus va fragiliser ce devoir de vigilance, là, très clairement.
Omnibus va le fragiliser, puisque aujourd'hui, on ne demande aux entreprises de faire une évaluation non plus tous les ans, mais tous les 5 ans. Et surtout, on demande de faire cette évaluation qu'au niveau des fournisseurs directs. Or, on sait bien que les entreprises sont construites avec une chaîne de sous-traitants et que la responsabilité doit aller jusqu'au dernier pour que vraiment on puisse prévenir des nouveaux Rana Plaza. Et donc voilà, là, clairement, on a une simplification qui vide totalement de sa substance la loi sur le devoir de vigilance au niveau européen.
Sur les obligations climatiques des entreprises, là aussi, Omnibus 1, donc, aura des conséquences très claires.
Alors, sur le plan climatique, bien entendu, puisque, on va avoir moins d'informations nécessaires, en effet, pour adopter des plans de transition. Et, de toute manière, l'obligation de mise en œuvre de plans de transition alignés avec l'objectif
de l'accord de Paris,
a disparu. Tout simplement. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus d'obligation de mise en œuvre, donc on ne pourra pas aller toquer à la porte des entreprises pour avoir failli à ce devoir-là.
Donc ça, concrètement, ça a un impact direct sur la transition écologique aussi, hein ?
Très clairement,
de tous les États européens.
Tout à fait, ça va vraiment la ralentir, puisque tous les enseignements qu'on a tirés ces dernières années, c'est qu'on ne peut pas compter sur l'autorégulation, sur la bonne volonté des entreprises.
Il faut des actes contraignants et des lois.
Il va falloir des actes contraignants pour tous les acteurs récalcitrants, et pour même les acteurs qui sont plein de bonne volonté, et il va falloir leur donner un cadre réglementaire et les informations, encore une fois, nécessaires à une action ambitieuse et assez rapide
donc
pour
là, c'est exactement
éviter la catastrophe
qui se passe
climatique.
Avec Omnibus.
Tout à fait, on a une mise en pause. Alors après, on peut toujours agir au niveau national, mais c'est vrai que l'opportunité que représentaient ces réglementations au niveau européen, qui était peut-être insuffisante, mais qui était vraiment majeure et des inédites par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années, a été annihilée.
Comment,
c'est dommage.
Comment vous l'expliquez ça, Lucie Pinson, que ces choix puissent être faits alors que l'urgence climatique reste aussi une préoccupation majeure, ne serait-ce que de la population européenne, quand même, aujourd'hui, on le voit quand même dans toutes les enquêtes qui sont menées.
Alors, on a des intérêts partisans, politiques, très court-termistes, qui clairement ont fait le jeu de la déréglementation, ça c'est certain. Il faut également mettre le doigt quand même sur le poids du lobbying de la part de grandes multinationales sur les décisions qui sont prises au niveau national ou européen. Puisque on l'a rappelé déjà, donc je ne vais pas y revenir, mais sur l'importance que ces entreprises ont eue sur la copie finale portée par la Commission, puis au niveau du Parlement. Ce que ça dit, en effet, c'est qu'il va falloir jamais baisser la garde et maintenir la pression sur nos politiques, et peut-être, comme on le fait aujourd'hui, davantage mettre en avant, en vérité, la responsabilité de nos décideurs politiques. Parce que cette
et faire de la pédagogie, parce que c'est très technique, ce sont évidemment des textes législatifs, donc évidemment c'est pas toujours très amusant de mettre le nez dedans.
C'est technique, c'est européen.
Et pourtant ça nous engage.
On a beau jeu de mettre toute la responsabilité sur l'Union européenne, mais en effet il faut pas oublier que cet agenda il est porté par des hommes et des femmes politiques, alors surtout de l'extrême droite, mais avec un gros appui de la droite et dans une certaine mesure du bloc macroniste. Et ce, en opposition avec la volonté de leurs électeurs. C'est que tous les sondages le montrent, c'est que les électeurs, aujourd'hui, européens, les citoyens européens, mais également nationaux, donc français, veulent une accélération de l'agenda climatique et veulent également plus de transparence dans les activités des multinationales.
On verra ce qu'on peut faire politiquement, juridiquement et collectivement face à ce paquet législatif omnibus. Et vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous, Lucie Pinson, sur la page de La Terre au Carré, également également vos messages vocaux que vous pouvez nous envoyer sur l'application Radio France.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs.
Emmanuel Macron, donc en 2023, sur la pause réglementaire européenne. Lucie Pinson, vous qui êtes la directrice de l'ONG Reclaim Finance, on s'intéresse donc avec vous cet après-midi à cette question du paquet législatif européen Omnibus. On n'est plus dans la pause, là, on est dans la reculade quand même par rapport à ces textes.
Alors aujourd'hui, on est clairement dans la reculade, dans le tricotage. On n'est pas dans la simplification ni dans la mise en pause de l'adoption de nouveaux textes. Donc on est allé bien au-delà de la position tenue par Emmanuel Macron en 2023. Ce qui est assez intéressant, parce que la position du gouvernement français est assez incompréhensible d'une certaine mesure, puisque en France, en effet, on a adopté des réglementations avant d'autres pays européens, et que l'adoption de ces mesures au niveau réglementaire européen visait à assurer un peu, à harmoniser les règles entre les États membres. Et donc la position qui a été tenue par la France à partir du tournant 2020 est un petit peu incompréhensible dans cette mesure-là, puisque Emmanuel Macron, avant d'appeler à une pause réglementaire, a aussi été un des premiers au niveau européen à porter la voix de certains acteurs financiers, notamment celle de l'américain BlackRock, pour exempter les acteurs financiers du champ du devoir de vigilance. Donc pour assurer que les acteurs financiers n'aient pas cette obligation de responsabilité civile face à leur impact socio-climatique au niveau international.
Bah là on y est. Avec Omnibus, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure.
Alors là, aujourd'hui, oui, c'est clair et net que le fait de réintroduire les acteurs financiers dans le champ de la directive a été abandonné, puisque plus largement, dans tous les cas, la directive a aussi été affaiblie. Mais c'est vrai que voilà, ça dit quand même que quelque chose du positionnement de nos décideurs qui, avant les années 2020, ont soutenu l'adoption de ces textes, puis ensuite se sont faits les artisans de la déréglementation.
Vous avez le sentiment qu'on donne une grande carte blanche là aujourd'hui aux grandes entreprises ? C'est ça que ça veut dire aussi à travers ce paquet législatif ?
Ah bah oui, tout à fait. On donne une carte blanche pour continuer des activités nocives au niveau international, sans possibilité pour les communautés de véritablement exiger des compensations ou des remédiations devant les tribunaux.
Qu'est-ce que ça montre aussi de la fragilité finalement de la démocratie, tout simplement en Europe, face au poids des lobbies industriels transnationaux qui agissent, qui font pression et qui sont très entendus, très écoutés ?
Plusieurs choses, en effet, on l'a vu en France, les négociations à partir de fin 2024 ont été menées à plus haut niveau par un gouvernement dont la légitimité pourrait quand même être mise en cause, notamment après les élections de juin 2024 et de la dissolution. On a également du coup un agenda politique qui est porté par le gouvernement, mais également par les partis d'extrême droite, contre encore une fois les positionnements de leurs électeurs. Parce que la volonté d'une réglementation et d'un contrôle dans une certaine mesure des multinationales, notamment en assurant plus de transparence sur leurs activités, ne vient pas uniquement des électeurs de gauche. Les sondages le montrent, les électeurs de droite, et y compris des électeurs d'extrême droite, sont en majorité favorables à ces règles-là. Et pourtant, leurs décideurs, leurs représentants politiques ne suivent pas leurs avis. On a eu déjà un autre précédent en France avec la loi Duplomb, qui a montré exactement la même chose de cet écart qui ne cesse de s'aggraver entre les positions entre l'opinion publique et les décisions ou l'agenda politique.
Là, sur la question des produits phytosanitaires en particulier, est-ce qu'il y a des recours juridiques qui ont été engagés contre ce processus Omnibus là, au niveau européen ou pas, Lucie Pinson ?
Alors oui, il y en a. Alors en revanche, il est certain que les mesures qui ont été engagées ne pourront pas à annuler la déréglementation qui a déjà eu lieu. Ça pourra, notamment s'il y a un appel et si ça va jusqu'à la Cour de justice européenne, on pourra avoir un avis éventuellement de la Cour qui démontre que l'Union européenne a failli face à ses responsabilités de consultation des différentes parties prenantes et dans la conduite d'études d'impact avant de mener de tels projets. Et donc ça pourra, on ne va pas refaire le match sur Omnibus 1.
Mais il y a des choses à faire ou pas ?
Par contre, ça pourra influencer très certainement l'issue des omnibus qui sont aujourd'hui sur la table. On a parlé de l'omnibus sur les pesticides, mais il y en a d'autres qui pourraient aller encore plus dans le sens d'une déréglementation et donc d'une mise en danger des populations européennes, notamment à travers les omnibus sur les pesticides ou sur les substances chimiques.
Qui seraient adoptées à vie, c'est ce qu'on disait. Il n'y aura plus de réévaluation scientifique sur la question.
Ça, voilà. Alors après, une autre majorité pourra toujours revenir dessus, mais ça voudrait dire qu'il y a un gros détricotage pour plusieurs années des avancées précédentes. Et donc voilà, la Cour de justice pourrait au moins empêcher ou faire en sorte qu'il y ait un vrai débat là-dessus.
Allez, on va passer aux questions parce qu'elles sont nombreuses pour vous. Sabine demande tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et citoyenne pour essayer d'inverser la tendance autour de ce paquet législatif, Lucie Pinson. Alors, est-ce qu'il y a des leviers, effectivement, pour les citoyens ?
Mais il faut agir à tous les niveaux. Alors au niveau européen, et c'est vrai que l'Europe peut nous sembler souvent lointaine, cependant on a des moyens d'agir, notamment au niveau national, puisque la politique européenne, c'est pas seulement le Parlement européen. Là, le Parlement européen, il est élu jusqu'en 2029, donc on va pas changer celui-ci. En revanche, les positions et les arbitrages européens sont aussi le fait des positions de chaque État membre, et donc on peut jouer sur la position de l'État et du gouvernement français. On a des échéances électorales, notamment 2027, qui arrivent et qui vont être une opportunité pour peser sur l'agenda politique. Et on le sait bien, les élections ne sont qu'un temps dans l'agenda politique. Il faut engager, il faut faire valoir la voix des citoyens sur une plus longue durée. Et donc, régulièrement, vous avez des pétitions ou d'autres appels à mobilisation qu'il faut soutenir.
Josie nous dit, vous ne rendez pas service, Lucie Pinson, à la cause que vous prétendez servir, ni à la démocratie, en diffusant une information douteuse et partisane.
Sur quoi ?
Alors, où est le doute parce que c'est très factuel, ce que vous venez de nous expliquer. Donc, où est effectivement le doute et le fait d'être partisan là-dessus ? Parce que vous êtes une ONG ?
Peut-être. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'attaques sur les ONG et on attaque par principe, non pas sur le fondement des propos, mais sur la qualité des interlocuteurs ou des messagers. Donc peut-être que l'auditeur me reproche d'être une représentante d'ONG. En revanche, j'aimerais bien en savoir plus sur où est-ce que le doute sur mes propos et sur le partisanisme de mes propos. Encore une fois, c'est bien ce que j'ai rappelé, c'est que même les électeurs de tous bords politiques sont en majorité favorables à ces réglementations en faveur de la protection de notre santé et de l'accélération de l'agenda climatique.
Et les enquêtes le montrent à l'échelle européenne,
pas seulement
en France. On va écouter un message vocal.
Bonjour, Yves de Montdidier. Pouvez-vous nous dire où en est l'évolution du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère ?
Oula.
Merci.
Alors, vous n'êtes pas climatologue, Lucie Pinson.
Je serais bien en peine de vous répondre là-dessus.
Mais vous êtes souvent face à Total Energy, donc vous avez quand même une idée de la question.
J'ai une idée que ça ne va pas dans le bon sens, malheureusement, et qu'on devrait drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et pas seulement le carbone, également le méthane, qui est très associé au développement des infrastructures gazières, que l'urgence est de réduire de plus de 50% d'ici 2030.
Ouais.
Or, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas sur cette trajectoire-là.
C'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans.
Et qu'on a dépassé pour la première fois l'année dernière le seuil de 1,5 degré de réchauffement au niveau global.
Ouais.
C'est trop tôt pour dire que le seuil a été dépassé sur la durée, mais clairement, on n'est pas sur la bonne trajectoire.
Aude nous dit merci pour vos émissions pointues. Je vous écoute en direct et j'aimerais connaître la référence, le nom de l'ONG néerlandaise qui a dénoncé cette coalition secrète de multinationales contre la déréglementation dont on parlait tout à l'heure, Lucie Pinson.
C'est Somo, un de nos partenaires avec qui on travaille étroitement sur cette question-là et qui a mené plusieurs enquêtes, hein, qui a révélé donc l'implication et le rôle joué par ces 11 entreprises, notamment fossiles, états-uniennes, mais aussi avec Total Energy, et qui a mené d'autres enquêtes précédentes pour montrer le rôle notamment d'une entreprise en particulier qui est Exxon Energy, qui s'est mobilisée dès fin juin 2023 sur cette question-là.
Merci beaucoup en tout cas Lucie Pinson. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Omnibus, votre ONG Reclaim Finance a publié plusieurs articles sur la question. Donc on peut aller sur votre site internet reclaimfinance.org. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.
Merci à vous.
Merci à Lucie Sarfati qui a préparé longuement ce dossier pour essayer de le rendre le plus clair possible. Merci à Titefond Labarre à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.